Radio Okapi.
Le journal avec Jocelyne Moussa Opondé. Les frontières de la RDC avec la Zambie sont fermées à l'import et à l'export. Certaines personnes soutiennent que cette situation serait la réplique des autorités zambiennes à l'interdiction faite par le ministre congolais du commerce extérieur d'importer certains biens. Julien Paluku, qui annonce des pourparlers entre les deux pays, appelle la population au calme. Plus de 500 détenus de la prison de Makala libérés hier samedi. C'est dans le but de désengorger cet établissement pénitentiaire. Le ministre de la Justice a par la même occasion distribué un premier lot de 3000 matas sur les 7000 commandés. L'invité de cette édition, c'est Paluku Sindani Lumumba II. L'internationaliste et chercheur congolais va commenter son livre intitulé « Péril en la demeure » dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Bonsoir à tous. D'abord, cette nouvelle, 12 corps des civils dont deux femmes et un enfant ont été ramenés ce dimanche à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. D'après le bourgmestre de cette municipalité, il s'agit des personnes exécutées par les rebelles des ADF samedi à Mukonia, village de la localité des Babila Bakaiko vers Mamove à l'ouest d'Oicha. Ce bilan est encore provisoire, ajoute la même source. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction de l'armée à ce sujet. Je le disais tantôt, les différentes frontières entre la Zambie et la RDC sont fermées à l'import et à l'export. La décision est du gouvernement zambien. Information confirmée par le maire de Kasumbalesa, André Kapampa, précise toutefois que cette mesure ne concerne pas le mouvement des populations. Pour plusieurs personnes, cette situation serait la réplique des autorités zambiennes à l'interdiction faite par le ministre congolais du commerce extérieur d'importer les bières, les boissons gazeuses, les carreaux, les faïences et la chaux. Dans un communiqué rendu public ce dit où le ministre congolais du commerce extérieur a tenu à éclairer l'opinion sur cette situation. Jean Gandou nous fait le point.
Le ministère congolais du commerce extérieur précise que les jus importés n'est pas concerné par cette mesure, étant donné qu'il n'est ni bière ni boisson gazeuse au terme de la clarification en vigueur. Ce même communiqué stipule que la RDC note de plus en plus une incidence négative sur son économie à la suite de l'inflation importée. Car en effet, poursuit le communiqué, le rapport du ministère de l'économie nationale révèle que certains produits importés contribuent à 60% à l'inflation. L'accord RDC Zambie précise que chaque partie contractante peut prendre des mesures anti-dumping ainsi que des dispositions compensatoires lorsqu'il s'avère que les produits en provenance de l'autre partie contractante sont subventionnés ou vendus à un prix si bas qu'ils causent préjudice à l'industrie locale du pays importateur. Le ministère congolais du commerce extérieur renseigne qu'il n'existe pas à ce jour de différends portés à sa connaissance par écrit ou par voie diplomatique et qu'il se prête, s'il le sait, à examiner toute demande formulée par la partie zambienne liée par l'accord qui interdit en outre toute mesure de rétorsion. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et en ce qui concerne l'interdiction d'importer des bières, des boissons gazeuses et autres faites par le gouvernement, la nouvelle société civile du Congo, antenne de Kasumbalesa, s'inquiète. Elle demande au gouvernement de revoir cette mesure car la population locale vit du commerce transfrontalier entre Kasumbalesa et la Zambie. Depuis, plusieurs milliers d'entre eux sont restés oisifs. D'autres détails avec Peter Mwepu Kunda, le coordinateur urbain de cette structure citoyenne, au micro de Jean Gandou.
Nous lançons un appel au gouvernement de revoir un peu cette décision. Qu'il y ait la création de l'emploi peut encadrer cette jeunesse parce que nous constatons plus de 12 000 jeunes vélomanes. La ville frontalière de Kasumbalesa vit aux dépens toujours de l'étranger. Le matin, la population défile vers la Zambie. Et c'est une porte qui fait entrer beaucoup d'argent. Notre souci est que le gouvernement voie convenablement cet aspect des choses, que le gouvernement puisse revoir comment encadrer cette population. Avec la création de l'emploi, là où la population va de l'ancienne activité vers la nouvelle, l'État n'a pas seulement le droit de frapper, a aussi le droit d'encadrer, de protéger la population.
Et en réaction, le gouvernement congolais, par le biais du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, appelle la population congolaise en général et celle du Haut-Katanga en particulier au calme, car les pourparlers entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis ce dimanche via visioconférence. Objectif, aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont les bières, boissons gazeuses, ciment, carreaux et la chaux. Dans les heures qui suivent, les deux parties vont se rencontrer à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, pour trouver une solution durable en ce qui concerne les échanges commerciaux, et cela dans le respect de textes régissant l'OMC et l'accord commercial entre les deux États, a ajouté Julien Paluku Kaunga. On l'écoute au micro d'Alain Irung.
Nous n'avons pas noté jusque-là une crise majeure entre la RDC et ses 9 voisins. Parce que comme vous le savez, les règles de l'OMC stipulent que chaque État peut prendre des mesures pour protéger son industrie locale lorsque cette industrie est menacée. À la suite de ce qui s'est produit à Kasumbalesa, la partie zambienne nous a appelés et nous avons organisé une séance en vidéoconférence. Et donc, à l'issue de la vidéoconférence, il a été convenu que dans les prochaines heures, les deux délégations vont devoir se rencontrer, à savoir la délégation zambienne conduite par le ministre en charge de l'industrie et du commerce et la délégation congolaise conduite par ce ministre en charge du commerce extérieur, a bien entendu, pour qu'on puisse examiner les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, puisqu'on puisse examiner les contenus de l'accord commercial qui nous lie avec la Zambie et pour qu'on puisse les confronter effectivement aux mesures qui ont été prises par le gouvernement à travers le ministère du commerce extérieur.
Désengorgement de la prison de Makala, libération hier samedi de 527 prisonniers par le ministre d'État en charge de la justice. Par la même occasion, Constant Mutamba a procédé à la distribution d'un premier lot de 3000 matelas sur 7000 commandés. On écoute Constant Mutamba dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Faire libérer 527 condamnés qui sont rentrés dans les conditions de libération conditionnelle conformément à la loi sous le régime pénitentiaire.
Quelles sont ces conditions?
Ben écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle.
Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice.
Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des biens publics. À ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions.
Excellent. Clôture ce dimanche à Beni d'une formation de 10 jours des agents et cadres de la police nationale congolaise sur les violences basées sur le genre et protection de l'enfant. Une formation organisée par l'unité de la coordination genre et protection de l'enfance de la police de la MONUSCO venue de Goma. Qu'est-ce que cela apporte de plus dans l'exercice du travail des bénéficiaires? Reportage de Sadiki Aboubakar.
Sarah Zouena est policière. Elle a préparé cette formation qui s'est clôturée par un test écrit pour évaluer le niveau d'apprentissage des policiers apprenants. Durant les 10 jours, ils ont appris notamment comment accueillir et orienter les victimes des violences sexuelles et celles liées au conflit, particulièrement les cas des enfants. Ils ont également appris comment établir un PV, l'analyse de la scène des crimes, les différentes techniques d'enquête, de la conduite d'interrogatoire. Pour Sarah, Cette formation va leur permettre d'améliorer la qualité de leurs prestations.
Il y avait d'autres parties qu'on ne savait pas comment protéger les enfants, comment catégoriser les enfants aussi. Parce qu'un enfant qui a subi des violences, il y a une façon de la protéger.
Le commissaire principal, Léon Punzo, est le chef d'escadron de la police de protection de l'enfant à Oïtia. En tant que participant à la formation, il estime que l'application des notions apprises pourra conduire à lutter plus efficacement contre les cas de violences sexuelles dans la communauté.
On sera là pour essayer de supprimer les violences sexuelle parce que on va éviter les arrangements à l'amiable. Encore aussi, on a insisté que en matière de violence sexuelle, il n'y a pas paiement d'amende transactionnelle.
La cérémonie de clôture de cette session de formation a eu lieu devant les autorités de la ville et de la police nationale congolaise. Beni Sadiki Aboubakar, Radio Kapi.
En bref, relever les forces et les faiblesses du système licence, master et doctorat, tel est l'objectif des travaux de la Commission nationale d'évaluation à mi-parcours du système LMD lancé hier samedi à Kinshasa par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Notez que ces travaux vont s'étendre sur 10 jours. Assainissement de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville a visité hier samedi la décharge de Mpassa. Cette visite avait pour objectif de s'imprégner de l'état des lieux de l'endroit destiné à recevoir une grande partie des déchets de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba a interpellé les personnes occupant d'une manière illégale cet endroit de prendre des dispositions. On l'écoute dans ce propos recueilli par Étienne Lissoumbou.
Le Zaki, le point zéro, commencement de l'opération coup de poing.
Aujourd'hui, c'était le point zéro du commencement de l'opération coup de poing, comme annoncé aux Kinois durant mon discours d'investiture. Parce que Kinshasa, en ce moment, a emmagasiné beaucoup de déchets qui ne sont pas évacués. En faisant un petit calcul simple, nous avons plus de 3 420 000 déchets disséminés dans les 24 communes. Nous voulons bien nettoyer l'endroit où l'on doit décharger. Voilà pourquoi j'ai sillonné moi-même les décharges de transit et quelques trous noirs et des rivières pour commencer. C'est la première étape de l'opération coup de poing parce que le travail vient de commencer. Ici, nous sommes à la décharge d'Mpassa pour faire un état des lieux. La route sera aménagée. J'ai donné également l'information à toute personne qui a occupé illégalement cet endroit de prendre ses dispositions. Tout le monde doit s'impliquer. Nous avons l'armée qui nous accompagne. Nous avons également demandé aux églises de faire de même. L'important est comment est-ce que nous, Kinois, allons nous approprier de ces projets.
Direction l'Équateur où la zone de santé d'Iboko, territoire de Bikoro, à plus de 200 km de Mbandaka, fait face actuellement à la pénurie d'eau potable. À peine 7% de la population a accès à cette denrée rare. La plupart des puits de forage manuel et de sources améliorées ont tari, y compris les ruisseaux qui servent au ruissage de manioc, aliment de base de la contrée. Cette pénurie accrue d'eau potable fait suite à la persistance de la saison sèche, indique de témoins. Conséquences sanitaires, il y a notamment la recrudescence des maladies liées à l'utilisation de l'eau impropre à la consommation, mais aussi la persistance de l'épidémie des monkeypox, comme l'explique le médecin chef de zone de santé d'Iboko, le docteur André Beau. Ça a été joint par Paul-Richard Malengela.
La couverture de la population en eau potable en termes d'une source améliorée ou de l'eau propre. Avec les projets Village Assaini, on avait au total 88 forages manuels, 21 sources améliorées, 2 forages mécaniques, ce qui donnait à la population une couverture de 39%. Au jour d'aujourd'hui, dans toute la zone, moins 7% de la population a accès à l'eau potable ou une source améliorée. Parce que la plupart des ouvrages laissés par les projets Village Assaini sont tombés en panne. Puis la sécheresse aussi a presque taré toutes les sources améliorées. Et sur le plan sanitaire, nous voyons vraiment l'éclosion des maladies liées à la carence d'eau et puis la corvée d'eau. Je vous affirme que des populations font des heures et des heures pour avoir ne fût-ce qu'une petite quantité d'eau et d'autres n'en ont même pas. Ils consomment des eaux de mauvaise qualité. Pour enchaîner l'impact de santé, je vous dirais que même la persistance de l'épidémie des monkeypox qui sévit dans notre zone est liée aussi à cette pénurie d'eau. Nous lançons un SOS à toute personne de bonne volonté qui peut nous venir en aide.
Dans la province de la Chopo, 419 km de routes seront réhabilitées dans les 7 territoires de cette juridiction. Le lancement officiel de travaux a été donné par le vice-gouverneur de province Didier Lomoyo Itekou jeudi dernier à Isangi. Le financement des travaux est assuré par le Fonds national d'entretien routier FONER pour un coût global de plus de 733 millions de francs congolais. C'est ce que nous raconte Jacques Moukonkolé à partir de Kisangani.
Les 419 kilomètres des routes à réhabiliter couvrent les 7 territoires de la province de la Chopo, à savoir Bafoussende, Banalia, Basoko, Isangi, Opala, Ubundu et Yaouma. Les tronçons les moins distants varient entre 50 et 30 kilomètres, y compris la périphérie de la ville de Kisangani. Cependant, le territoire d'Isangi s'en sort avec un long tronçon à entretenir, soit 150 km de route. Les travaux sont financés par le FONER, affirme la DGA de la Direction des voies de sortes agricoles. Geneviève Beya précise que le montant déboursé par le FONER à cet effet est de plus de 733 millions de francs congolais. Pour sa part, le vice-gouverneur de province invite les techniciens de l'OVDA et les membres locaux d'entretien routier à exécuter les travaux selon les règles de l'art. Didier Lomoyo Itekou leur demande surtout d'assurer un suivi régulier de cette réhabilitation, car, souligne-t-il, l'amélioration des infrastructures routières va certainement contribuer à booster l'économie locale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. En Ouganda, le bilan humain de l'effondrement d'une décharge hier samedi s'est alourdi. 12 personnes ont été tuées dans un quartier au nord de la capitale Kampala. L'opération de sauvetage se poursuit pour être sûr que personne n'est encore coincé sous cette montagne de déchets, ont déclaré les autorités de la capitale qui gèrent ce site de stockage. Selon les médias locaux, des maisons, des personnes et des animaux d'élevage ont été engloutis sous les ordures à la suite de cet éboulement provoqué par de fortes pluies.
L'invité.
Vernissage vendredi 10 août à Beni du livre intitulé « Péril en la demeure » dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Dans cet ouvrage, l'auteur analyse les conflits persistants dans la région et envisage de voies de sortie pour aboutir à une cohésion et au développement intégral de la région. L'internationaliste et chercheur Paluku Sindani Lumumba II, auteur du livre, en résume le contenu dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Paluku Sindani Lumumba II, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Nous venons d'assister au vernissage de votre livre. Pouvez-vous nous résumer ce livre en quelques mots?
Merci beaucoup. Le livre Péril en demeure dans la région de Grand Lac, c'est un livre qui a été inspiré après les analyses sur plus ou moins 25 ans de la situation de la région de Grand Lac. Nous parlons du conflit, de la contribution de la femme congolaise en particulier, et puis de la femme dans la région de Grand Lac en général, pour la paix. À la fin, ce qui peut renforcer la cohésion régionale et qui pourrait nous amener vers un développement intégral dans cette partie de l'Afrique.
Alors, à l'introduction, vous dites que votre livre est un outil d'éveil de conscience des Congolais. Et en épigraphe, vous dites, je cite, « La guerre nous a appris que si une nation essaie d'imposer sa volonté particulière à d'autres, une réaction cruelle s'ensuit inévitablement. Le jamboree nous a enseigné que si nous exerçons une patience et des concessions mutuelles, il règne alors une sympathie et une harmonie. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire par là?
Je pensais que s'il y a la guerre qui persiste, ça n'avantagerait à aucun état de la région de Grand Lac. Nous tous, nous allons perdre. Parce que ce qui nous anime pour nous battre, et viennent récupérer les ressources et nous restons seulement avec des cadavres, avec de vulnérables. C'est ainsi que nous avons estimé que le fait de créer un nouveau leadership dans la région des Grands Lacs qui compte sur les projets intégrateurs, ça peut être mieux. et surtout donner de l'appétit à la jeunesse et à la nouvelle génération de considérer les complémentarités différentielles.
Et la paix est une denrée chèrement pourchassée.
Au premier chapitre de l'ouvrage,
vous parlez même d'une instabilité béante dans la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui est à la base de cette instabilité? Et surtout, pourquoi la RDC, de manière particulière, ne parvient pas à saisir la paix?
Déjà après le démantèlement de l'URSS, vers les années 1990, les Occidentaux avaient fait des analyses et ils estimeraient que la seule région qui regorgerait encore beaucoup de matières stratégiques pour l'industrie militaire et technologique, c'était la région de Grand Lac. C'est ainsi qu'il y a eu des scénarios qui ont été conçus pour venir mettre la main basse sur ces ressources. Ici, il y a beaucoup d'indicateurs dangereux que j'ai pu analyser, à commencer par le génocide au Rwanda. Musée Laurent-Désiré Kabila qui est venu avec l'AFDEL, qui voulait sortir de cette nouvelle logique qui venait d'être créée par les Occidentaux, il a été directement mis en respect. Alors, la RDC a été tellement déstabilisée parce qu'elle regorge, surtout dans sa partie orientale, une grande quantité de matières qui sont utilisées dans l'industrie vraiment stratégique.
Alors, faisant allusion à l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, vous évoquez son implication sociale et économique négative. Comment expliquez-vous cela?
En fait, quand on a promulgué la loi instituant l'état de siège, nous avons eu des objectifs qui étaient bien clairs dans l'ordonnance du président. Mais sur le terrain, en tout cas, il y a encore donc des questions à se poser. L'ennemi est en train de gagner du terrain, la population est en train de souffrir, il y a des morts, des milliers de morts, chaque jour presque. Et puis bon, on s'est dit, l'état de siège est venu pour imposer l'autorité de l'état, mais c'est comme si c'était une grosse mamelle nourricière auquel on s'accroche pour vraiment beaucoup de thé au tir à long cœur pour qu'on continue toujours à sucer quelque chose.
Pour finir, que doit faire la RDC pour retrouver la paix, cette denrée chèrement pourchassée, comme vous le dites?
La RDC doit travailler sur soi-même. Nous devons éviter la dynamique de la médiocrité. Nous devons travailler sur la discipline et la discipline. Quand on fait des recrutements, même dans des cabinets, dans des postes, tout ça, il y a toujours cette influence de clientélisme, de ceci, sans tenir compte de la méritocratie. Travailler sur la méritocratie, la discipline et la sanction. C'est à ce moment-là que nous pourrons peut-être changer les choses.
Paluku Sindani Lumumba 2, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Ainsi s'achève ce journal coordonné et supervisé par Alain Erong Mouchinge et mis en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci de l'avoir suivi.